Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arnaud Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Spino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Jean-Frédéric. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Sally Bonne, Mathilde Villeneuve, Florian Guetté, pour parler ensemble de On danse. Vous avez entendu l'interrogation. C'est le titre de l'exposition du MUCEM à Marseille. Des attentions. C'est au Crédac. Centre d'art contemporain d'Ivry. Il y aura un coup de cœur, celui de Mathilde Villeneuve pour Affective Utopia, la galerie Cadiste, et cette terrible question dans le petit salon de Lucille Gomeau, trop de Picasso, tu Picasso ? Et aussi, je crois qu'on a entendu le point d'interrogation. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour aller voir le film Long Way Home de Jordana Spiro, qui est sorti aujourd'hui sur les écrans français. Et nous ouvrons cette dispute en nous rendant à Marseille pour l'exposition On danse, visible jusqu'au 20 mai au MUCEM. Les commissaires en sont Émilie Gérard et Amélie Couillot. L'invitation du musée est à prendre au sens littéral puisqu'elle s'adresse, ai-je lu n'ayant pu faire moi le voyage à Marseille, mais vous allez nous le dire, elle s'adresse donc aux danseurs, à la danseuse qui sommeille en chacun de nous. On va entrer dans ce flux audiovisuel proposé. Vous nous parlerez sans doute de la scénographie de Cécile de Gauss qui est censée, je parle comme ça, ne l'ayant pas vu en effet, permettre toute latitude à nos corps sollicités qu'on ait envie de s'allonger ou peut-être aussi de s'essayer au twerk. Alors on danse, est-ce que vous avez dansé Sally Bonne dans cette exposition du MUCEM? Mais non, plus sérieusement d'abord, comment est-ce qu'elle nous accueille cette exposition? Qu'est-ce qu'on y voit?
Alors d'abord on rentre dans un espace tout noir qui fait à peu près 800 mètres carrés sur dans un espace comme ça en sorte de U dans une très grande longueur. Et on arrive dans une sorte de cercle comme ça que la scénographie invite à pénétrer. Et on a dans tout cet espace d'exposition en fait 13 écrans qui projettent un seul film, enfin un seul flux, puisque dans ce flux il y a un montage de 59 films qui sont des films documentaires, des films artistiques, des extraits de films de cinéma.
Donc pour bien comprendre, sur les 13 écrans c'est le même flux de ces 59
c'est
films,
le même
mais
flux.
Pas dans le même
alors,
déroulé.
Alors dans l'espace, les 13 écrans sont installés, un grand écran nous accueille, puis un plus petit posé au sol, un tout petit minuscule dans une alcôve, un plus grand qui est un peu transparent, 3 moniteurs devant lesquels on peut s'installer dans des transats, et puis de nouveau un très grand écran, puis encore un autre.
Ils sont synchronisés.
Et ils sont tous synchronisés.
Ce qui évite le problème de la musique qui pourrait polluer d'un écran à l'autre.
C'est la particularité de cette scénographie aussi, c'est que quel que soit l'endroit où on se trouve dans l'exposition, on est toujours
devant
le film.
C'est la bonne musique.
On est toujours devant le film, c'est-à-dire qu'on a, c'est peut-être aussi une expérience un peu singulière, on a l'impression qu'on ne va jamais rien manquer, ce qui n'est pas toujours le cas dans des expositions où on voit des films, on se dit si je manque la fin du film ou si je tourne mon regard, je vais manquer quelque chose. Là, pas du tout. On est, c'est ce qui est censé inviter justement à la déambulation et à la progression et au mouvement, puisque cette exposition évoque la question du mouvement, pas seulement de la danse justement, puisqu'il n'est pas question, et c'est le souhait des commissaires de ne pas évoquer tellement la figure du danseur que le mouvement du corps qui peut amener à la danse. C'est-à-dire d'abord à quel moment commence la danse, où elle commence, et puis après vers qui on danse. C'est un petit peu ça l'idée de l'exposition. Et la scénographie, elle est aussi très prégnante puisque en dehors de ces grands écrans qui sont en fait le seul espace en fait de visibilité des œuvres qui sont montrées. Il y a un système d'éléments en fait qui viennent accompagner le corps du visiteur, une rampe alors qui fonctionne très bien parce que enfin moi j'y suis allée plusieurs fois et j'ai vu une fois des adolescents qui grimpaient juste quasiment au haut de la rampe ou des enfants qui jouaient sur des balançoires puisqu'il y a des balançoires à l'entrée de l'exposition. Il y a une sorte d'espace où on peut s'allonger, on peut s'asseoir, on peut se mettre sur une sorte d'estrade. En fait tout ça invite véritablement à prendre corps, et je pense que c'était ça l'idée, à prendre corps dans l'espace d'exposition.
Est-ce qu'on a, Florian Guettet, l'info de ces 59 films, la durée totale ?
Je crois qu'on est à 6 heures de montage.
Donc c'est faisable humainement, en une journée. On peut rentrer au MUCEM, non mais c'est possible. Il y a des expositions qui proposent des vidéos, et des fois on fait le compte et on se dit, c'est pas possible, parce que ça dure 30 heures, 40 heures, 50 heures, 6 heures, c'est à la mesure humaine, si je puis dire. Mais...
Exactement. D'autant que moi je suis resté 2 heures, et que c'est la première fois que je sors frustré d'une exposition où je reste 2 heures. Ah. J'aurais pu rester plus longtemps. On peut somnoler très facilement, puisque tout est fait pour ménager notre confort, à l'exception des moments où effectivement il y a les scolaires, où là ça s'anime énormément. Mais après tout, c'est un des enjeux de cette exposition.
Et c'est quoi, d'où elle vient votre frustration alors, Florian Guettet ?
Ma frustration, elle vient du fait que c'est la première fois que je faisais l'expérience d'un dispositif scénographique qui me propose une expérience nouvelle. Un protocole même nouveau dans le musée à propos de la danse. C'est-à-dire que depuis plus d'une dizaine d'années, les invitations des grandes institutions aux chorégraphes se multiplient et on a beaucoup d'expositions comme ça sur la performance, sur la danse, mais à chaque fois finalement entre le musée et la danse, il y a toujours un qui plie. Soit la danse devient un objet muséal, soit le musée devient une scène chorégraphique. Et là, je trouve que la particularité de cette exposition, c'est d'ouvrir un interstice entre les deux, où se réinventent véritablement les façons d'approcher les œuvres. C'est-à-dire que l'exposition ne fait le choix ni de l'archivage, qui a tendance à figer dans une forme de conservation un peu mortifère des corps dansants. Hein. D'ailleurs, il n'y a que 4 objets. Il y a une sculpture de Suzuki, un objet chorégraphique de Forsyth, un éventail de Mistinguette et un ghetto blaster. Et puis, d'autre part, elle évite aussi le performatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps de danseur présent dans la salle. Le seul corps qui est activé, c'est celui du spectateur, mais sans injonction participative. C'est-à-dire que si le spectateur a envie de se lever dans une chaise... Transat, enfin, dans les petites alcôves ou sur l'agora, c'est une sorte de petite montagne comme ça où on peut s'allonger, on peut enlever ses chaussures aussi. Eh bien, il peut complètement disparaître dans le flot d'image. Et j'apprécie vraiment cette façon d'échapper à des modalités qui peuvent très facilement devenir des impasses curatoriales. Donc ça, évidemment, c'est le travail de scénographie qui est très très important, très judicieux hein, de Cécile de Gosse, qui nous permet effectivement de pénétrer cette black box, hein, en fait, de franchir d'emblée le quatrième mur, ce qui est évidemment l'interdit suprême du théâtre, et de pénétrer et de pratiquer même ce dispositif. Toutes les danses donc sont présentées sur ce flux continu, et la question qui vient venir se dégager en fait de cette mise en espace là, c'est est-ce que c'est le geste qui fait danse ou est-ce que c'est le regard qu'on porte sur le mouvement ? Et à partir de ce moment-là, à partir de ce déplacement, quand on pose les choses ainsi, eh bien, il y a un glissement du corps vers le regard, de la technique vers le jugement, et finalement, le point d'orgue n'est plus l'acteur, mais le spectateur. Et ça, j'ai trouvé ce parti pris-là était plutôt porteur.
Porté ? Mathilde Villeneuve, par cette exposition, comment vous l'avez appréhendée, vous ?
Alors moi, j'ai été moyennement portée. Je suis restée quand même bien 3h30, donc assez longtemps pour voir un certain nombre de films. Et je dois dire que, d'abord, pour être positive, que l'exposition, elle a le mérite d'être très joyeuse. Que la scénographie en effet est assez réussie parce que c'est un espace très confortable et que c'est on y trouve toutes les toutes les postures désirées pour pouvoir voir des films. Donc la réception est là et attentive. Ceci dit, j'ai trouvé que parce qu'il se revendique de vouloir faire un grand montage d'un seul et même film, à partir de tous ces petits extraits ou films d'artistes, et qu'au final, on a une impression de pot-pourri dont j'ai pas réussi à lire les lignes directrices. Parce qu'on n'a pas cité qui il y a.
Voilà, dans le pot-pourri, qu'est-ce qu'on a comme type d'image.
Et peut-être qu'il y aurait le même pot-pourri chez moi. C'est-à-dire que ma vidéothèque pourrait ressembler aussi à ça. Il y a plein de super films. Il y a un extrait génial de Luc Moulet, Ma première brasse. Vous savez quand il dit vous vous foutez de ma gueule, mais je danse comme je sens. Et puis tout, tout, tout. Rien que pour ça, il faut aller le voir.
Vous pouvez refaire tout, tout, tout.
J'adore Luc Moulet. Il y a des extraits d'un génial film anthropologique d'André Gladu sur les interdits de danse par le clergé au Québec, où on a le témoignage de deux vieilles personnes qui racontent à l'époque comment c'était vraiment un objet subversif, la danse, condamné par la morale. Donc plusieurs extraits comme ça de documentaires. On a les Postmodern Dance avec Yvonne Reiner, le End Movie. Vous savez qu'elle avait fait un film de ses mains quand elle était alitée dans son lit d'hôpital et qu'elle ne pouvait danser. Trisha Brown, Forsythe, on l'a déjà cité. On a des artistes plasticiens type Aurélien Froment qui vient, très bien aussi, qui vient filmer un duo de Bollywood sur un toit au Sénégal. On a Julien Gallet-Ferré qui rejoue des vidéos de son enfance où il jouait ou dansait avec son frère et il est fait 20 ans plus tard avec son corps devenu adulte. Très beau film aussi.
Est-ce qu'on a de la comédie musicale? Est-ce qu'on a du vidéoclip? Est-ce qu'on a de la culture populaire? Voilà.
Qui est repris. Alors c'est qui?
Comment Max Crow.
Voilà, exactement. Qui reprend cette fameuse, une fameuse scène de Grease et qui la.
On n'a pas la vraie.
On a la vraie scène
aussi
de Grease, mais qui est décryptée en voix off par l'artiste et qui la rejoue comme ça à l'infini en expliquant tout ce qu'il avait obsédé et passionné en voyant ce film à l'époque.
Et en coupant le refrain.
Et en coupant
ce qui
le refrain.
Fait que tout le monde attend ce refrain-là et
qui ne vient jamais. Et que c'est hyper frustrant, ouais.
Encore de la frustration.
Encore plein de frustration.
Lucille Comeau.
C'est quelle chanson du coup? Parce que
alors, moi j'ai déjà Luc Moulet.
You're the one I love, the one I love.
Ou.
Donc ça, on ne l'entend
voilà.
pas.
Voilà. Ça donne envie comme ça.
Bah, on l'entend dans notre tête en fait. C'est ça qui est fort. Oui, c'est que de toute façon, elle est tellement inscrite qu'on ne peut pas y échapper.
Alors d'où vient votre sentiment de. On a senti une adhésion pas franche pour vous?
Parce que je trouve ça un peu léger, je crois. Que ça manque d'une proposition, qu'elle soit scientifique dans le sens plus travaillée. Quoi. J'ai l'impression que les deux commissaires qu'on n'a pas cités...
Si, je les cite toujours, je vous remercie.
Pardon,
vous
pardon.
N'écoutez pas ce que je dis, Émilie Girard et Amélie Couillot.
Voilà, donc
j'ai l'habitude qu'on n'écoute pas ce que je dis dans cette émission.
Une conservatrice du MUCEM et une commissaire extérieure qui est habituée à faire des programmations autour de la danse ont travaillé ensemble avec une monteuse de cinéma. Et le problème, c'est qu'elles traitent aussi de cinéma et qu'elles ne le traitent pas très bien. Il y a un problème aussi de peut-être de connaissance ou de regard sur le cinéma qui fait que j'ai trouvé ça trop gourmand.
Mais vous disiez au début de votre intervention, Mathilde Villeneuve, parce que moi je vous écoute, que quand même les gens semblaient y prendre du plaisir, que ça fonctionnait. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que parfois il y a des expositions comme des films, comme des livres, qui sont là aussi pour faire du bien, sans avoir forcément un propos. Alors,
mais ça fait du bien de
d'accord.
faire penser.
Aussi, mais... On est d'accord là-dessus.
Bah oui, mais donc c'est
ça vous a manqué, cette dimension vous a manqué.
Ça m'a manqué.
Florian Guettet.
Oui, mais on n'est pas dans le divertissement non plus. C'est-à-dire que le non-choix ou le non-parti pris de hiérarchiser, de cloisonner comme ça le cinéma, le documentaire, la danse est un parti pris en soi. Ce qui est très intéressant, effectivement, il n'y a pas d'apport pédagogique ou scientifique sur la danse, mais il y a une forme d'indiscipline. C'est-à-dire de vraiment d'échapper au cloisonnement disciplinaire. Et j'ai trouvé ça très porteur parce que ça désinhibe beaucoup de choses. Faut pas oublier que la danse, même si voilà, les gens, les chorégraphes, les danseurs sont pas forcément d'un même milieu social, mais l'accès à la danse est quand même très très socialement marqué. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un effort de quelque part de démocratiser, mais c'est pas vraiment le mot que j'aimerais employer, mais en tout cas sans
le rendre plus accessible.
Le rendre plus accessible, mais
sans dire venez, vous aussi, vous pouvez vous intéresser à la danse dans tous ses états.
Par ricochet, on peut tomber. Donc il y a effectivement il y a une danse des Bigouden dans un documentaire de Francine Lancelot des années 60. Et puis par ricochet, on peut arriver sur du globbing avec la pièce de Tony Regazzoni, et puis retomber sur une pièce historique de danse avec les accumulations de Trisha Brown. Et cet effet comme ça de fragmentation, de
donne à penser. Moi, je pense aussi.
Ah non, en tout cas, il met en mouvement le corps comme la pensée.
Ça, elle est bonne.
Oui, alors moi, j'ai eu cette première impression d'un très grand plaisir à traverser l'espace, à s'installer, à essayer les différents endroits, à constater qu'effectivement, il y a des gens qui dorment, il y en a d'autres qui s'activent beaucoup, surtout les enfants. Et comme j'y suis retournée trois fois, que j'ai pas réussi à avoir les 6 heures, parce que en retournant trois fois, je suis quand même retombée sur
Vous êtes toujours à la même heure aussi.
Non, justement. Mais je suis tombée sur une grosse même portion. Ah, mais bon, c'est le jeu.
Ouais.
Et en même temps, de constater à la troisième fois que cette inactivité en fait des spectateurs était aussi était singulière. Alors je me suis posé la question de savoir si effectivement ça fonctionnait ou pas, cette scénographie qui est très 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 forte. Et ensuite la deuxième question qui s'est posée, et c'est un petit peu, je rejoindrai Mathilde, c'est à un moment donné j'étais en train de me dire mais pourquoi il y a pas ça, pourquoi il y a pas ça, pourquoi il y a pas ça. Et en sortant, cette impression s'est affermie en me disant mais au fond qu'est-ce qui a justifié ce choix-là plutôt qu'un autre. Alors effectivement c'est d'abord déclaré par les commissaires,
hein. Elles
ont dit c'est pas exhaustif, c'est pas scientifique, ça se veut, et c'est le terme qu'elles ont utilisé, organique et subjectif. Mais une fois qu'on a dit ça, on se dit mais devant quoi on est en fait.
C'est l'exposition d'amateurs un peu.
Au sens noble.
Oui, au sens noble, oui, au sens voilà. Noble quand même. Parce
donc,
qu'il y a des très belles pièces.
Hein, mais... par bout de ficelle, celle de cheval. On a l'impression que c'est ça qui a...
Et surtout qu'il y a quand même 59 films, 6 heures, et que sur ces 59 films, le montage a l'air d'être fait effectivement sur un principe de marabout, sans qu'on comprenne exactement d'où on part, ni où on arrive.
Il n'y a pas d'arc narratif, il n'y a pas de lien.
Il y a des grands ensembles, évident. On pourrait dire.
Ah, quand même.
Il y a quand même une ligne qui se dégage, c'est la non-virtuosité. C'est-à-dire aussi comment la danse peut imprégner le quotidien. Donc effectivement, vous avez parlé de ma première brasse, mais on a la danse de l'estomac, la marche aussi. On a donc comme ça plein de gestes simples qui permettent aussi à chacun de s'identifier, de se projeter, de s'approprier cet art qu'en général on ne connaît pas. Enfin, je sais pas vous, mais moi à l'école, on m'a jamais parlé de danse, quoi. Et puis en général, quand on vous parle de danse, on vous parle peut-être du ballet classique.
Du bac des signes,
on vous parle jamais de cette danse-là. Et c'est ça, parce que le point de départ quand même de l'exposition, c'était aussi quel est l'héritage de la postmoderne danse. Aujourd'hui, la postmoderne danse, c'est de dire le geste quotidien, c'est déjà la danse. La danse, elle est dans l'espace public et pas forcément sur la scène. Il faut pas privatiser comme ça la discipline chorégraphique.
Bon, beaucoup de choses à dire encore sans doute, mais le temps file. Dire que quand même, c'est Boris Charmatz, c'est pas très étonnant, qui est l'artiste invité du MUCEM cette saison et donc qui participe de multiples façons à cette exposition en danse, avec notamment, on y verra la danse de nuit le 27 et 28 mars, le projet 20 danseurs pour le 20e siècle, là, ce sera à la fin du mois de juin, mais il y a quand même aussi d'autres invités qui seront présents, notamment Amanda Pigna qui sera là. Alors non, ça c'est déjà passé, c'est très mal, mais elle revient, je crois, plus tard dans la programmation. Danse de mars, forcément, si plus tard. Bon, il y a quand même aussi des événements organisés dans l'exposition.
Il y a un studio de chauffe même en bas, qui permet tous les week-ends à ce que le public vienne assister ou participer en fait à des moments de danse.
Donc il y a du corps quand même.
Oui, c'est très ouvert et très généreux, c'est vrai.
Bon, voilà. Ça c'était pour On danse. Point d'interrogation, c'est jusqu'au 20 mai au MUCEM à Marseille. À suivre la dispute, nous allons aller après Marseille à Ivry. On ira à la galerie Cadiste et on se rendra pour finir dans le petit salon de Lucile Gomo.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Comme prévu donc pour cette suite de disputes art plastique, on se rend à Ivry au Centre d'art contemporain, le CREDAC, pour parler de l'exposition collective des Attentions, dont les commissaires, entendez bien Mathilde Villeneuve, sont Brigues Dominguez, Catherine Guiral, Hélène Mézel. L'exposition s'intéresse, comme nous l'explique la feuille de salle, à tous ces doigts, toutes ces mains qui nous sollicitent, qui sollicitent notre attention dans les tableaux, dans les manuscrits, aujourd'hui dans les pages internet. Les œuvres présentées ont toutes moins de 25 ans. La plus ancienne, je crois, est de 96. Elles mobilisent à leur façon, on verra comment, l'attention du regardeur. C'est la sonnette du Crédac, je l'ai reconnue, on peut y entrer en suivant Florian Guettet.
Écoutez, moi, j'y suis rentré deux fois pour cette exposition.
Alors, parce il y avait que trois pour Sally, la et, deux et pour vous.
Non, mais parce que j'avais fait une visite distraite. Et finalement, c'est pas un hasard, parce qu'en fait, dans ce titre, Désattention.
Pour une expo qui s'intitule Désattention.
Ben oui, mais laissez-moi finir ma phrase.
Non, mais j'aime bien vous interrompre, en fait. C'est mon nouveau truc.
Et Désattention, en fait, ça peut se lire de deux manières. Soit vraiment, c'est la multiplication des attentions et la sursollicitation, effectivement, de l'attention qui est en cours aujourd'hui dans nos façons de communiquer, de nous informer, notamment par les écrans. Et puis, des attentions comme une manière de désamorcer l'attention. Donc ce propos-là est tenu, en fait, tout le long de l'exposition. Je trouve que c'est un sujet urgent, c'est un sujet qui fait complètement partie de notre société. Yves Citon en a parlé, Bernard Stiegler en a parlé, sur cette façon qu'ont les industries culturelles de capter notre attention. C'est le fameux temps de cerveau disponible de notre cher ami Lelay, Patrick Lelay.
Je sais pas, c'est votre ami, donc c'est vous qui voyez.
C'est ironique. Et donc, dans ce capitalisme cognitif-là, que devient notre attention qui est instrumentalisée de toutes parts? Et il me semble que c'est effectivement un des enjeux de l'art aujourd'hui que de mettre son grain de sel dans cette économie de l'attention-là, de nous apprendre soit nous en départir, soit au contraire à nous concentrer dans l'attention. Alors, le propos, ou en tout cas le parti pris de l'exposition, c'est finalement de détourner un des partis pris, sinon moins de deux, mais ce serait de détourner les processus de détournement de l'attention. C'est-à-dire de rejouer la logique de captation contre elle-même. Mmh. Et ça, on le voit dès la première salle, avec une pièce au sol assez impressionnante, qu'elle occupe bien la moitié de cette très belle salle qui est baignée de lumière du Crédac. C'est une pièce de Mathias Hutter, où elle a mis plusieurs photos de naufrages, d'inondations, en tout cas de catastrophes ou pas, mais en tout cas qui ont lieu, qui montrent par contre une sorte de liquéfaction, un motif aquatique, et au milieu des vieilles couvertures pliées. Et on se retrouve d'emblée face à cette une sorte de métaphore de la liquéfaction de l'attention. Effectivement, sur le net, on navigue, on surfe. Hein. Il y a effectivement quelque chose de l'ordre du flux qui fait qu'on glisse dans les informations. Et on s'en rend pas compte tout de suite, mais Mathias Hutter, finalement, ironiquement, nous met face au risque, en tout cas, de notre propre naufrage. C'est-à-dire quand, à force de liquéfaction, est-ce qu'on n'est pas en train de se perdre là-dedans? Du coup, les couvertures, qui sont des couvertures de confort, des couvertures voilà qu'on pourrait prendre pour lire au coin du feu, sont aussi des couvertures de survie. Mmh. Donc il faut prendre le temps, en fait, de prendre chacune des œuvres pour lire son double message. On a une pièce aussi de Antonio Muntadas qui présente sur des écrans une reprise des slogans publicitaires et des messages subliminaux qui sont toujours liés. Claude Koski avait fait une pièce comme ça aussi, mais qui sont toujours liés quelque part à la victoire, aux valeurs du plaisir, de la conquête, et mise comme ça dans une sorte de montage assez rapide avec de la musique derrière, bien ça nous met dans un état presque hypnotique, mais bizarrement ça nous permet aussi d'installer une distance critique avec ce que habituellement on voit sans avoir conscience. Et ça continue avec toutes les pièces de la première salle pratiquement. Peut-être parler de celle de Fouad Bouchacha.
Dans un instant, après, parce que ça continue avec Mathilde Villeneuve pour l'instant, cette musique du Crédac.
Je peux rebondir sur la pièce de Fouad. Fouad Bouchacha qui présente deux points, parenthèses et point virgule, qui sont en fait qui sont donc une sorte de dessins qui ressemblent à des dessins industriels de loin ou à des plans d'architecture, en tout cas un traitement de l'espace émargé de données partout, comme des pastiches aussi, et qui sont en fait qui peuvent aussi de loin ressembler, puisqu'on sait bien que tous ces cette ponctuation sert aujourd'hui d'émoticône, et que ça c'est une sorte de pastiche un peu drôle qui pourrait être, c'est ça qui est assez bien fait, comme extrait de la ponctuation manquante de l'œuvre qui est juste à côté, qui de Laurence Catala, qui est en fait un agrandissement à l'échelle du mur d'une page, de deux pages d'un livre sans ponctuation, dont on ne connaît pas la provenance. Puisqu'il n'y a pas de source, simplement le livre est surligné un peu partout et annoté de définitions écrites à la main par, on imagine, l'artiste, et qui nous parle d'un... Entre le texte et les notes, on est face à une sorte de texte de roman d'anticipation qui parle d'effondrement, de la menace de la disparition de l'écriture, au profit de l'oralité, et donc on a Farmanac 451 en tête aussi. Voilà, donc c'est,
ça vous raconte quoi, vous, cette salle, ces œuvres dont vous venez de parler?
Je crois que ce qui est un peu en jeu dans l'exposition, et que j'ai aussi mis du temps à découvrir, je crois que c'est vraiment une exposition qui se dévoile progressivement, c'est que on essaye de trouver nos propres cheminements d'association. C'est comme si on était amené à fabriquer nos propres algorithmes, en fait, pour déjouer la machine. Et donc, ces annotations et ces définitions, on ne va pas forcément les chercher dans des espaces existants, mais les inventer. Or, normalement, la définition est ce qui sert de base. C'est l'axiome, quoi. De la même manière, la ponctuation, qui est un repère connu, et ben il est détourné pour devenir un dessin industriel. Donc c'est plein de jeux de détournement qui sont comme un appel à se ressaisir de nos capacités d'attention et d'invention avec. Je crois que c'est ça que je lis dans les pièces.
Qu'est-ce que lit Sally Bone quand elle se rend au Crédac pour cette exposition des attentions?
Effectivement, il est question de lecture. Non seulement cette pièce de Laurence Catala dont vient de parler Mathilde, mais toute l'exposition semble porter autour de la question du récit et des récits sur lesquels justement il faudrait porter notre attention. Et effectivement, traverser cette exposition qui, alors c'est un peu bas de gamme comme jeu de mots, mais qui mérite vraiment de l'attention, c'est-à-dire du temps aussi, et qui met en jeu notre disposition à l'attention. Et au fond, effectivement, l'exposition semble très très portée par les réflexions, la crise de l'attention que évoquée par Yves Citon, l'attention des travailleurs, l'attention de l'attention médiatique, l'attention du consommateur, et comment en fait on peut dépasser tout ça par quelque chose qui serait un retournement en fait de ces captations de l'attention au profit justement d'une dimension imaginative, inventive, du rêve, puisque le rêve est très présent aussi, de la question du sommeil, d'une espèce d'attention flottante qui est évoquée par les commissaires aussi, dans laquelle est censé nous mettre l'ensemble des œuvres. Alors il y en a pas beaucoup en fait, enfin il y a 10 artistes. On entre dans cette grande pièce, comme Florian l'a évoqué, avec aussi le son de la pièce de Muntadas qui est très présent et qui va en fait colorer un petit peu tout le déplacement qu'on peut faire, et qui nous inscrit dans un espace qui est qui nous invite à être un peu flottant, et ce flottement, il est à la fois dans différentes temporalités parce que tout se croise. On a effectivement le roman d'anticipation où on a l'impression que le cœur de l'Europe est en danger. Le texte parle d'une grande vague et d'un grand effondrement, on ne sait pas ce que c'est, mais en même temps tout d'un coup ça résonne avec le naufrage qui est proposé par Batia Souter. Et donc on est entre des couches temporelles, on est entre du politique, du poétique, on est entre de l'organique, du botanique, du numérique, le passé et l'avenir. Et donc en fait c'est des systèmes de confrontation qui se retrouvent en fait comme l'enjeu même de chaque œuvre, en fait comme s'il y avait des espèces de tensions dans chaque œuvre qui par l'attention qu'elles invitent, par l'attention l'invite à nos ressources attentionnelles, en fait viennent révéler en fait ces tensions.
Alors, ce qui m'est apparu, enfin on parlait tout à l'heure de cette exposition au Mucem qui peut-être alors manquait de propositions de pensée, cette exposition du Crédac, elle en manque pas, mais est-ce qu'il vous semble qu'elle accompagne assez le visiteur? Cette feuille de salle dont j'ai parlé, où les œuvres, enfin chaque artiste, enfin il y a des informations, mais vous écoutez tous les trois, je me sens un peu moins bête du coup. Parce que je me dis, pour les auditrices et auditeurs qui nous entendent maintenant, je me dis, oulala, ça a l'air quand même assez compliqué, qu'est-ce que je vais comprendre, moi, si je rentre au Crédac, quelle réponse à cette question-là, Florian Guettet?
Moi, je trouve que l'art est à sa place dans cette exposition, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à devenir un scientifique, à écrire un essai à partir de l'exposition. Je crois qu'effectivement, il y a deux propos, une critique, effectivement, des processus d'attention, avec une volonté de sensibiliser à ce qui nous échappe. Mmh. Et deuxièmement, une façon de revaloriser le potentiel de l'inattention, de la distraction, de dire que c'est là aussi où se construit la création, l'imagination, et en neurosciences on le sait, hein, dès qu'on désactive les aires préfrontales, c'est-à-dire tout ce qui fait partie des fonctions cognitives supérieures, le langage, l'anticipation, etc., eh bien on libère le circuit par défaut qui est l'imagination.
Oui, donc ça c'est tout très le monde bien... ne le sait pas quand même.
Eh bien, j'ai voulu.
Est-ce que c'est d'un accès aussi simple?
Eh bien vraiment, on trouve que quand on se retrouve face aux œuvres de Suzanne Trester sur une sorte de conte halluciné, quand on voit les associations hasardeuses qui sont présentées par les maquinchotage, je crois, de Raymond Hens, quand on voit l'esthétique, on va dire, de la trace du presque. Alors, cette façon de réenvisager les insectes et l'inframince dans son milieu par Nicolas Lamas, eh bien là je trouve qu'on a effectivement cette expérience brute, immédiate, d'une inattention qui produit quelque chose de fictif, d'irréel, et dans lequel on se plonge assez facilement.
Facilement, Mathilde Villeneuve?
Je trouve qu'il y a certaines pièces qui sont vraiment très denses. Et ça ne veut pas forcément dire qu'elles résistent à la compréhension, simplement elles sont tellement riches que ça demande un peu de temps. Florian parlait de cette vidéo de Suzanne Trester. Elle est quand même, on peut un peu la décrire, oui, parce que c'est une sorte de folle histoire qui nous raconte celle d'un trader de Londres qui devient jardinier, puis artiste, parce qu'il a déliré ses calculs sous la prise de psychotropes pour imaginer une nouvelle approche du monde. Donc ça devient de plus en plus ésotérique. Il a encodé ses classements d'entreprises cotées en bourse qu'il a mêlé. Je suis même plus sûre d'ailleurs de comment ça fonctionne. Mais
j'admire votre résumé.
C'est la guématrie.
C'est ça.
C'est une espèce d'exégèse qui part des chiffres et qui déduit en fait un certain nombre de formules.
D'accord, mais il le mêle à l'histoire des plantes, oui, des plantes psychotropes, oui, qu'il a en même temps ingérées. Donc c'est vraiment une sorte de conte hallucinatoire qui en même temps parle du monde numérique qui semble recelé de secrets qu'il nous faudrait déchiffrer, de la nature hallucinogène du capital, et pourquoi pas, du cerveau comme un algorithme géant. Voilà, donc il y a quand même plein de choses qui fusent de cette pièce, à laquelle au départ peut-être on comprend rien, on se demande de quoi il s'agit, de sorte de documentaire fiction, parce qu'après cette histoire-là, ça lui permet de présenter des sortes de dessins de plantes à côté qui seraient les productions évidemment artistiques de ce fameux trader de Londres.
Il faut prendre du temps, C'est ça ce qu'il faut dire. Sally Bonne.
Temps, absolument. Et alors il y a d'autres pièces parce qu'on en fait on parle beaucoup de l'idée de l'exposition qui est absolument passionnante en fait et extrêmement riche, mais les pièces aussi le sont. Et une des dernières, parce qu'il y a cette grande salle qui nous accueille et puis après il y a une autre salle où on trouve effectivement les Macintoshages de Raymond Hens, la pièce de Suzanne
Trester,
une autre ensuite qui est en fait une pièce interactive de Suzanne Hiller et enfin un très beau film de Daria Martin qui est en fait un tourné dans un laboratoire d'intelligence artificielle et on voit des corps nus, un homme et une femme qui évoluent dans l'espace avec des morceaux de robots qui sont pas tout à fait complets en fait et qui en même temps ont une espèce de capacité quasi empathique en fait à accompagner le contact de l'homme et c'est absolument cette pièce est absolument magnifique et là on n'a pas besoin de il s'agit pas de comprendre quoi que ce soit, on est vraiment dans le regard et la contemplation de cette pièce.
On a jusqu'au 31 mars de toute façon pour aller retourner plusieurs fois au Crédac, le centre d'art contemporain d'Ivry, pour aller voir cette exposition qui s'appelle donc Des Attentions. Le coup de cœur de Mathilde Villeneuve ce soir, c'est pour Affective Utopia, qu'on peut voir jusqu'au 21 avril à la Galerie Cadiste à Paris. De quoi s'agit-il, Mathilde ?
Affective Utopia, c'est donc en effet une exposition à la Fondation Cadiste qui se trouve à Montmartre, rue des Trois Frères. Et ça me semblait intéressant de parler de cette exposition pour le projet en soi, l'exposition en tant que telle, qui, là dont on voit un premier volet puisqu'il y en aura trois. En tout cas deux autres, jusqu'au 21 avril, mais aussi parce que ça parle des manières de travailler entre structures et des liens de solidarité qui peuvent se passer entre institutions artistiques de différents pays, en l'occurrence. Parce qu'il s'agit en fait d'un emboîtement de deux institutions artistiques. CADIS, d'abord, donc vous connaissez sûrement, qui est une fondation privée ouverte en 2001, qui a quelques années après ouvert à San Francisco un cousin, et qui a vraiment œuvré avec d'autres lieux de recherche en art à ce moment-là à inviter des artistes et des commissaires étrangers quand la scène était encore assez franchouillarde en France, la scène artistique. Et ça a vraiment évolué depuis et grâce à ça. La collection de Cadiste est aussi très internationale à l'image de ça. Donc, cette institution, enfin cette fondation, invite, après avoir organisé des résidences à des commissaires étrangers pendant un certain temps, maintenant ça a été pris, disons, certains d'autres lieux ont pris le relais, ils invitent carrément les directeurs d'une autre institution, en l'occurrence Hangar, après avoir invité d'abord un autre lieu à Athènes qui s'appelait State of Concept, qui avait été créé au moment de la crise financière à Athènes. Là, c'est Hangar, ça vient de Lisbonne. C'est un lieu qui a été créé il y a 4 ans, un espace indépendant qui est très grand, avec à la fois café, resto, des lieux pour accueillir des artistes étrangers en résidence, des studios pour travailler pour les artistes sur place. Et c'est un lieu où à la fois qui expose, mais qui est aussi un lieu de discursif, où beaucoup de débats, de workshops, etc. ont lieu, qui est, contrairement à Cadiz, qui on peut pas dire est pas impliqué localement dans son quartier, mais plutôt sur une scène internationale. En l'occurrence, Hangar, l'inverse, l'est énormément. Donc, Hangar arrive là avec Monica de Miranda, qui est une artiste directrice de Hangar, Bruno Laito, qui est aussi directeur, lui plutôt commissaire d'exposition. Et ils ont créé cette expo au titre Affective Utopia, qui est en fait le Utopia pour raconter aussi leur propre histoire, c'est-à-dire que c'était en soi une utopie, de vouloir de créer ce lieu avec l'ambition délirante et si peu de moyens, et affecte parce que ça traite aussi de sujets qui les concernent eux, en l'occurrence des problèmes identitaires, l'histoire coloniale du Portugal, qui vont être déployés pendant toute l'exposition.
Oui.
Je finis rapidement pour raconter de quoi il s'agit exactement. Il y a trois artistes dans ce premier volet qui sont présentés. Kilwanji Kiyanda, qui est né en Angola. Angela Ferreira, qui vient du Mozambique, qui a résidé entre le Portugal et l'Afrique du Sud. Et Sami Baloudji, qui a fait un film au Congo. Tout ça pour dire que c'est aussi des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, qui sont assez connus au Portugal, mais pas tellement en France. Et ils ont présenté trois expositions que j'ai le temps ou pas de déployer
un
petit
plus,
peu.
Là, plus là, Mathilde, parce que là, sinon on n'a plus. Ben non, parce que l'introduction a peut-être été trop longue, mais ça donne envie. Voilà, la frustration, cher à Florian Guettet, de la frustration naît le désir d'aller à la Fondation Cadiste d'ici le 21 avril pour découvrir ce qu'il propose en gare avec cette exposition titre d'Affective Utopia. Mais oui, il faut faire toute la place au petit salon de Lucille Gaumont, parce qu'après, Lucille a dit « Mais alors, mais il n'y a plus de temps pour mon petit salon, Lucille. » Alors, qu'est-ce que vous m'avez écrit ? Là, j'arrive à vous lire. Encore une exposition, Picasso ?
Oui, c'est presque une habitude désormais de la critique culturelle que de commencer comme ça. Encore une exposition, Picasso, mais comment faire pour y trouver de l'intérêt ? C'est même plus qu'un constat, c'est souvent à la fois un jugement de valeur et un outil journalistique. Dès lors, toute critique d'une exposition consacrée au génie ultime devient un exercice de comparaison. Dernièrement, le Journal des Arts allait même plus loin en titrant à propos de la dernière occurrence « Picasso, le temps des conflits au Carré d'Art de Nîmes », la veine Picasso se tarit à Nîmes. L'exposition en question fait partie d'un projet intitulé Picasso Méditerranée, projet qui court depuis le printemps 2017 et qui fera les beaux jours de divers lieux jusqu'en 2020. Un réseau en fait qui permet de faire voyager l'œuvre de Picasso un peu partout, étant donné que les institutions qui l'accueillent à l'année, et à commencer par l'hôtel particulier parisien, sont bien trop étroites pour exposer les milliers d'œuvres qu'elle possède. Picasso joue bien le jeu de la décentralisation, et même si les œuvres sont extrêmement chères à déplacer, toute exposition qui porte le nom du maître est de toute façon gage de telles recettes que même les petits musées n'hésitent pas à risquer l'investissement. Ces dernières années, Picasso a été absolument partout, décliné sous de multiples formes, tout anniversaire, compagnonnage artistique, parallèle, focus formel, jusqu'aux coïncidences les plus apparemment ténues, sont bons à prendre. En France, où la question de la décentralisation culturelle revient encore plus fréquemment que celle de la lassitude Picasso, c'est un cas d'école, des institutions qui prêtent volontiers, qui font voyager des œuvres toute l'année partout, que demande la critique ? Mais la veine se tarit, selon le Journal des Arts, forcé de constater que le public, et dès lors que ce discours volontiers déploratif n'est probablement que l'apanage d'initiés, en l'occurrence, toute exposition Picasso est un best-seller, un simple exemple, celle consacrée à Picasso et les arts populaires au MUCEM en 2016 a été vue par 210 000 visiteurs et a largement contribué à lancer la jeune institution auprès du grand public. Une exposition dans l'année, ça permet par ailleurs de prendre des risques, de programmer des artistes méconnus, d'élaborer des affiches a priori moins alléchantes, alors faut-il s'en plaindre ? Les amateurs et les professionnels de Picasso rétorquent qu'étant donné le génie absolu de son époque qu'il est, il est tellement divers, il est tellement prolixe que les possibilités de le montrer sont inépuisables, et d'ajouter aussi, on l'oublie peut-être, que l'engouement est somme toute assez récent. Après sa mort en 73, il a été boudé pendant plusieurs années. On peut aussi penser que l'exposition Picasso est justement le lieu parfait pour l'épanouissement d'une pensée critique sur ce qu'est et doit être une bonne exposition, dans la mesure où les œuvres sont connues, où elles sont commentées, surcommentées, le travail d'accrochage et d'analyse, bref, le travail du commissaire est d'autant plus crucial. Tout bien considéré, l'exposition Picasso n'est-elle pas finalement l'exposition parfaite pour vous, critique d'art ?
Ah, alors ça, c'est la question. Alors maintenant, quelques réponses. Elle est bonne pour commencer.
Allez, c'est moi. D'accord.
Vous êtes près de moi,
parfait,
voilà,
oui,
c'est,
oui,
la,
je vois,
c'est
okay.
La géographie.
J'ai un petit peu regardé, il se trouve que j'ai eu la chance quand même de voir l'exposition qu'il y avait au musée d'Orsay dernièrement, Picasso bleu et rose, et que ça faisait longtemps que j'avais sans doute pas vu d'exposition Picasso, malgré la pléthore, parce que après vérification, il y en a tripotée, c'est absolument incroyable. Picasso et ceci, Picasso et cela, Picasso et le Minotaure, Picasso et la céramique, Picasso et l'archéologie. Bon, on
Picasso
a
et tout ce qu'on veut en
du
fait.
Picasso avec tout.
Et
cependant, il y a quand même,
y
a quand même 50 000 œuvres de Picasso. 25 000 qui sont au musée Picasso, et que dans ces 25 000 œuvres, effectivement, il y en a, par exemple, que 1 000 qui sont sorties du musée Picasso actuellement. Donc, en fait, c'est pas tant que ça, par rapport à l'ensemble des œuvres. Et je me suis dit, bon, après avoir vu cette exposition que j'ai trouvée absolument magnifique, vraiment très, très, très réussie, parce que, et c'est peut-être une manière de répondre à la question qui est posée, parce que, en voyant cette exposition, je dis, mais en fait, on connaît pas Picasso. On a l'impression de le connaître très bien parce qu'on l'a vu, entendu, vu son nom partout et qu'il fait partie de ces artistes canoniques dont tout le monde sait déjà quelque chose et a déjà vu des choses. Et au fond, l'exposition, en tout cas celle bleue et rose au musée d'Orsay, a laissé comme impression que on le découvrait, et on découvrait notamment un jeune homme, parce que les œuvres qui étaient exposées, c'était des œuvres qu'il a faites entre 19 et 25 ans, et avec quand même une masse de travail absolument énorme. Donc il y a cette idée que peut-être les expositions Picasso permettent de renouveler d'abord peut-être un discours critique, d'une part, de renouveler aussi le regard qu'on peut avoir sur les œuvres, parce que les thématiques, elles invitent aussi à interroger autrement. Je sais qu'il y a eu une exposition l'année dernière, à Barcelone, sur Picasso et la cuisine, et qu'il s'agissait de mettre en relation les céramiques de Picasso, son rapport à la nourriture, et ce rapport de ces céramiques et de la nourriture par rapport à ses écrits. Donc, en fait, inviter le texte, les textes de Picasso qui sont pas tellement connu, et en fait de réinterroger son œuvre et son rapport à la nourriture à travers l'écriture. Donc c'est peut-être finalement ça va être très 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 banal, mais peut-être qu'en fait on va continuer à découvrir par ces nouvelles expositions à découvrir des nouvelles œuvres, ou en tout cas des nouvelles recherches, parce que c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire que l'exposition Picasso est aussi une manière de proposer des nouvelles recherches sur Picasso, en fait, au sens historique, de l'histoire de l'art et de la critique.
Mais c'est vrai que vous l'avez dit au début de votre propos, c'est bonne, la quantité d'œuvres. Alors c'est une très longue carrière, tant mieux pour lui, qui est très vieux, il a été très productif dans toutes les périodes, il y a même eu une expo sur la période où il a le moins produit, mais parce qu'avec Picasso, Mathilde Villeneuve, on peut effectivement parler de tout et pas seulement de lui, peut-être.
Oui, alors moi je suis un peu lassée par toutes ces expositions.
Parce que là, vous en avez vu beaucoup.
Alors non, j'en ai pas vu tant que ça, mais je vais pas vraiment les voir. J'ai vu, c'est vrai qu'elle est très belle, l'exposition au musée d'Orsay. J'étais émue par plein d'œuvres, certaines que je ne connaissais pas. Je sais pas quoi dire. En fait, il y a rien à redire à Picasso. C'est superbe. Simplement, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expositions qui ont été faites, beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, et qu'après, on peut pas, si on prend la scène artistique, faire tout le temps en même temps. Et donc, il faut choisir, il faut faire des choix. Et ça me semble pas du tout une priorité aujourd'hui de continuer à faire des expositions sur Picasso. C'est un artiste qui est excellent, qui a eu toute la reconnaissance qu'il méritait. Je crois que on pourrait au moins le mettre un peu en veille, c'est là, et puis ensuite le ressortir
des
expositions.
La redécouverte de Picasso.
On le redécouvre dans 25 ans, ça serait magnifique. Et entre-temps, on va justement, pour faire le lien avec ce coup de cœur que j'ai pas eu le temps de complètement finir de développer, présenter des artistes qu'on voit jamais en France, d'Afrique, d'Amérique du Sud, et de soutenir par la production ces expositions et l'élaboration de leurs œuvres en devenir, pour des artistes qui ont peut-être un peu plus besoin de visibilité aussi, parce que tous ces artistes-là parlent de choses qui sont importantes, comme l'histoire coloniale de la France ou de l'Europe.
Mais ça, on est d'accord là-dessus, que ces artistes aient besoin de visibilité. On entend aussi que les musées ont besoin de rentabilité et d'entrée de visiteurs. Enfin,
mais c'est trouvons quand même... des manières de faire.
J'entends bien, mais c'est pas la question posée, mais qui va être précisée avant que Florian Guettet n'intervienne. Lucille Comeau.
Non, mais je me faisais la réflexion que justement, une veille presque critique pourrait pourrait également reproduire dans un second temps peut-être plus de discours, parce que j'imagine que même aujourd'hui, pour produire un discours critique et scientifique sur Picasso, vous devez être tellement plein de tout ce qui se dit et de tout ce qui se produit en permanence dans les expositions, que c'est difficile d'avoir une vraie image de ce qu'est son œuvre. Enfin,
Florian
Guettet, je sais pas ce que vous en pensez, Florian.
Oh bah écoutez, moi j'ai pas encore d'avis sur Picasso jardinier ou Picasso à la plage, hein, donc je pense qu'il y a encore des plein de terrains comme ça à explorer.
Pourtant ça a été fait, hein, Picasso à la plage.
Ah bah oui, ça c'est sûr.
L'été dernier.
Je pense que tout a été fait.
Non, mais effectivement, il y a plein encore d'expositions de qualité, que c'est difficile de rater complètement une exposition Picasso, même si ça s'est fait. Oui. Et que effectivement, on cite Orsay, on pourrait citer Picasso Picabia aussi, qui était très réussi. Mais le risque de tout ça, c'est d'une part l'hégémonie, c'est-à-dire vraiment le côté dominant de ce discours, presque qui résiste à toute forme de critique, puis qui écrase surtout tous ses contemporains, et puis effectivement les autres continents, comme Mathilde l'a rappelé, et puis le fétichisme qui mène quand même à une forme d'absurdité ou d'irrationnel financier, par exemple, hein, juste comme ça, on peut se rappeler quand même quelques prix: 95 millions pour le Dora Marocha en 2006, Nuit au plateau sculpteur 106 millions de dollars, et Les femmes d'Alger 179 millions de dollars en 2015. Donc je crois aussi que la fascination autour de ce personnage, elle est due à cette forme de fétichisation pour ce qui dépasse complètement la raison. Alors après, on a les mythes qu'on mérite, hein, j'ai envie de dire, si notre époque n'est pas capable de se trouver des nouveaux maîtres, c'est aussi la faute des critiques, des commentateurs, etc. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'on nous impose des choses. D'abord, d'une part, de la part de Picasso lui-même, qui a repris à son compte beaucoup des mythes, le Minotaure, etc., et qu'il a donné des mythes à la modernité, là où on en manquait, comme Beuys a pu le faire en Allemagne. Dali a essayé, mais il a un peu échoué. Et puis du côté des institutions, hein, faut se rappeler quand même que Malraux a décrété la collection Picasso patrimoine national, qu'on a même fait une loi exprès pour qu'on puisse payer les droits de succession par des donations artistiques. Donc ça veut dire c'est quand même assez exceptionnel. Et puis effectivement le volontarisme de Laurent Lebon qui
l'actuel directeur du musée Picasso national,
qui veut faire valoriser cette incroyable collection. Alors quand même avec ses dérives, hein, parce qu'il y a 400 000 pièces en tout, hein, c'est-à-dire il y a les œuvres, mais il y a aussi tous les documents d'archives, 200 000 quand même la donation de 1992, qui pousse quand même, je crois que c'était sur l'expo Olga ou l'expo 1932, j'ai un doute maintenant, la temporalité, mais il y avait quand même des plans de piscine.
Les listes des courses.
Le ticket d'un spectacle, enfin d'un combat de boxe, etc. Donc là, on arrive dans un fétichisme qui me semble assez vain.
Lucille Comeau.
Je reviens à ma question de départ sur la forme même de l'exposition. Est-ce que l'un d'entre vous a vu plusieurs fois accrocher différemment, disons, une période ou un ensemble d'œuvres ou même une œuvre? Et est-ce que ça peut donner à penser aussi sur ce que c'est qu'une bonne exposition sur un maître comme Picasso?
Bon, ce que disait Florian, hein, tout à l'heure, il y a eu des expos ratées.
Non,
mais c'est pas forcément les mêmes œuvres qui sont exposées, donc du coup ça peut aussi donner à penser de voir la même chose exposée différemment dans différents lieux avec une pensée différente.
Je pense à
et puis quand ils n'y arrivent pas, de toute façon ils mettent des reproductions, par exemple pour chef-d'œuvre, hein. Chef-d'œuvre, on a quand même cette exposition au musée Picasso il y a pas longtemps, et finalement comme on n'arrivait pas évidemment à faire voyager Demoiselle d'Avignon, on a mis une tapisserie qui reprenait Demoiselle d'Avignon.
L'expo Guernica sans Guernica.
Exactement. Aussi. Donc à un moment, il y a quelque chose d'un peu tiré par les jeux aussi. À vouloir à tout prix remontrer ses œuvres, et je suis pas sûr que ce soit dans l'accumulation qu'on arrive vraiment à créer des contrepoints critiques.
Et est-ce qu'au-delà du volontarisme des diverses institutions, de fait, enfin, il y a une offre certaine. Bon, après, l'offre et la demande, vous allez me dire, ça fonctionne ensemble, mais il y a quand même une popularité qui est indéniable de Picasso. Comment ça s'explique? Je ne comprends pas, Mathilde.
Mathilde Villeneuve.
Moi, je crois que justement, c'est en fait, ça pousse au vice, c'est-à-dire que il l'a créé aussi, cette demande. C'est-à-dire que c'est l'hégémonie dont parlait Florian, c'est un
système.
Un peu d'artistes
du XXe siècle qui étaient couverteurs de Paris Match, quoi. Donc, non, mais c'est ça aussi. C'est sa force.
Oui, c'est sa force. Et il y a peu d'artistes qui a autant de produits dérivés, de théières, je sais pas quoi, de porte-bouteilles, Et du coup, ça aussi, je trouve que ça pousse à une consommation de l'art. qui est pas, à mon avis, la forme qu'il faut, voilà, qu'il faut travailler. Et je pense que les institutions doivent être plus exigeantes que ça. Après, je dis pas que c'était mal de le faire. C'est un artiste, je remets pas en question ce qu'il est.
Florian Guettet.
Oui, et puis je trouve qu'il est très pratique pédagogiquement. C'est-à-dire qu'il fait quand même la synthèse de toutes les avant-gardes. Mmh. Il est engagé politiquement. Mmh. Il travaille avec les autres formes d'art comme la danse. Il fait du monstrueux avec le surréalisme. Il invente le cubisme. Donc il y a aussi une sorte de facilité là-dedans. Et puis effectivement, maintenant, il est tellement irrigué dans la culture populaire. Moi, j'ai revu Titanic il y a pas longtemps. Effectivement, il y a deux noms qui sont cités. C'est Freud et Picasso, quoi. donc voilà. Et juste quand même pour finir, mais Picasso disait lui-même, était un peu atteint du syndrome de l'imposteur lui-même. Et il disait, et moi-même, depuis le cubisme et au-delà, j'ai contenté ses maîtres et ses critiques avec toutes les bizarreries changeantes qui me sont passées en tête, et moins ils comprenaient et plus ils m'admiraient. Mais quand je suis seul avec moi-même, je n'ai pas le courage de me considérer comme un artiste dans le sens grand et antique du mot.
Ouais, il est fort. Hein. Il a tout prévu, Picasso, y compris cette citation. Parce qu'il savait qu'un jour, Florian Guettet allait la lire sur l'antenne de France Culture dans le petit salon de Lucile Comeau. Donc on referme les portes. Hélène, qu'elle a tous les soirs quand même, c'est sa radio, elle est forte aussi. Pour le jeu de la dispute, à ce moment-là de la journée, Sarah qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse.
La question d'hier était: d'après quel personnage de fiction le théâtre de la Bastille était-il nommé à ses débuts? Et la réponse est Cyrano de Bergerac, puisque c'était le Cyrano.
Et ce soir, nous faisons gagner des places de cinéma pour aller voir le film Long Way Home de Jordana Spiro, qui est sorti aujourd'hui sur les écrans français. Quelle est la question, Sarah?
Dans quelle série télévisée sur le milieu médical Jordana Spiro a-t-elle assuré le rôle principal?
Votre réponse, je ne l'ai pas, ainsi que vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. À la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions, vous abonner au podcast. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature. Nous serons en compagnie d'Elisabeth Philippe, de Philippe Chevillier et de Florent Georgesco pour parler ensemble de Une chose sérieuse de Gaël Obiegli chez Vertical, de Bacchante de Céline Minard, publié chez Rivage, et du livre de Daniel Schreiber publié chez Autrement, Je suis né quelque part, où peut-on être chez soi? Point d'interrogation là aussi. Il y aura un coup de cœur signé Philippe Chevillier pour Les femmes de Heartspring Mountain de Robin MacArthur, publié chez Albin Michel.